Bonjour à toutes, bonjour à tous. Enregistré dans les loges du théâtre municipal, ça fait jazzer, l'émission de Bac FM au cœur du 38e Jazz Nevers Festival. Je reçois Fred Pouget, clarinettiste et directeur artistique du Maxiphone Sauvage. Bonjour Fred.
Bonjour.
Le Maxiphone est un collectif.
Alors, le Maxiphone était au départ un collectif,
c'est
une compagnie, moi j'appelle ça une compagnie maintenant, qui est née en 2001, donc ça, qui a
oui,
un peu d'âge. Et au départ, c'était l'idée de rassembler des gens qui pratiquaient ce type de musique sur une grande région. À l'époque, j'habitais en Corrèze, une grande région qui allait du Cantal jusqu'au Poitou-Charentes, quoi. Voilà, en gros.
Alors, quand tu dis cette musique, parce que si on consulte Internet, on lit à ton propos Jean-Philippe Rameau, S'en vont les trois bons maçons.
Oui, oui.
En Limousin.
C'est assez large comme. C'est assez large comme. On va dire que.
La pratique de la musique.
Que l'idée de rassembler des gens qui travaillaient autour du jazz, des musiques improvisées, avec forcément des influences qui étaient, pour certains, qui venaient des musiques traditionnelles, d'autres qui étaient... Géraldine Laurent a fait partie de ce collectif il y a très très longtemps. Donc voilà, donc c'était assez ouvert aussi comme... l'idée, c'est, enfin, quand on pratique ce type de musique, si on commence à mettre des barrières, c'est même pas la peine. Quoi.
Surtout donc, que je pense que la musique traditionnelle, il y a des années, ils improvisaient dans les balles, dans les soirées, c'était de l'improvisation.
Bien sûr. Mais il y a encore des musiques traditionnelles où il y a de l'improvisation. Quand on pense à la musique indienne, par exemple.
Même en France, je pense que dans les balles trad, dans les festivals trad, maintenant c'est encore.
Mais même en musique classique, plutôt baroque, tout ce qu'on appelle les cadences, la fin des concertos, par exemple, c'était libre cours aux solistes. Donc il avait un cadre, mais ça s'improvisait. Maintenant, ça s'improvise plus, ou il n'y en a pas beaucoup qui le font. Mais l'improvisation fait partie de la vie, en fait. C'est comme quand je fais des ateliers avec des enfants, je leur dis l'improvisation, c'est comme une discussion.
C'est ça. C'est-à-dire on improvise tout le temps, en fait.
Voilà, quand on parle ensemble, en ce moment, on improvise. On a des mots, mais on ne sait pas comment on va les mettre, dans quel sens. C'est en fonction de l'interaction qui est entre nous deux. Voilà.
C'est ça, voilà. Donc ce soir, on entend, vous jouez en première partie de soirée, à 20h30, le Maxiphone Sauvage. Et la plaquette dit un voyage sonore mieux que des paysans.
Oui,
c'est des formules, mais
c'est des formules.
J'aime bien faire réagir.
Tu as raison. Ce qu'il y a, c'est que je fabrique des orchestres un peu toujours hétéroclites avec des gens.
L'instrumentation qu'il y a, oui.
Pour le coup, dans cette formation où il y a 10 personnes au plateau, il y a des gens qui viennent de la musique contemporaine classique, des gens qui viennent vraiment du jazz, et d'autres qui viennent de la musique traditionnelle française.
Il y a Didier Larroux.
Voilà. Et j'aime bien mélanger les différents acteurs, parce que quand ils improvisent, par exemple, ils n'improvisent pas tous pareil.
Oui.
Dans le travail qu'on a eu ensemble, les réflexions ne sont pas les mêmes, les points de vue ne sont pas les mêmes, donc du coup, ça fait avancer beaucoup le travail de l'orchestre, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça.
Oui.
Et paysage sonore, parce qu'on a un Turc qui est bassiste et qui fait aussi du paysage sonore électronique.
D'accord.
Voilà.
Ok. Et donc là, c'est de la musique de Jean-Philippe Rameau que tu as réarrangé. J'ai lu les œuvres pour clavecin, mais
pas tout à fait ça. J'ai découvert ces pièces quand j'étais en fac je me suis toujours dit que j'allais faire quelque chose. Mais comme je suis un autodidacte, je me dis il a fallu du temps pour que je m'autorise à toucher à cette musique-là.
Oui.
Voilà. Bon, bref.
Oui,
Jean-Philippe
Rameau.
On n'y touche pas comme ça, quoi.
Ouais.
Et du coup, je me suis dit, je vais partir de certaines pièces pour clavecin qui sont hyper mélodiques, enfin en tout cas qui moi me touchaient, et je vais écrire de la musique à partir de ces pièces-là. Donc de temps en temps, on entend des bribes.
Oui, on va pas écouter Jean-Philippe Rameau, d'accord, c'est l'inspirateur.
Je suis parti de ce terreau-là, pour écrire des pièces pour cette formation-là, quoi. Voilà.
D'accord. Parce que j'ai lu toujours sur Internet, hein, vous entendriez chez Jean-Philippe Rameau un bon vieux groupe de rock avec des riffs en tête.
Ça, c'est sûr. Ouais. Notamment Les Cyclopes. Les Cyclopes, c'est une pièce pour clavecin qui parle des cyclopes. Et d'ailleurs, moi, j'avais lu une étude musicologique là-dessus. Et la personne disait que sur la basse, la main gauche de cet instrument, à ce moment-là, il entendait les martelets, en fait, que Rameau avait voulu marteler. Parce que les cyclopes, enfin, on va pas parler de l'histoire des cyclopes, il y en a un qui tape sur des enclumes, mais bon.
D'accord, voilà.
Et du coup, ça fait vraiment comme une base de rock. Boum, 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 ça fait ça, quoi.
C'est ça.
Et moi, c'est dingue, quoi. C'est vraiment. Ouais. Et puis, il y a un truc, en travaillant là-dessus, je me suis dit, mais Rameau, il a inventé la musique pop. Parce que toutes les suites harmoniques qu'il a utilisé et qu'il a un peu aussi réglé les problèmes d'harmonie de cette époque-là, parce que c'était un peu le bazar. Donc il a écrit des choses sur l'harmonie, comment on organise les accords, comment on passe de l'un à l'autre, voilà. Et en fait, si on écoute bien, ce soir, il y a un moment donné dans une pièce, le mandoliniste là fait une suite harmonique. C'est vraiment une suite harmonique de pop, quoi. Mais c'est Rameau qui l'a écrite.
Ah, bah oui,
et donc, du coup, je me dis, mais c'est l'inventeur de la pop, quoi. Il a inventé ce cheminement harmonique qu'on entend tout le temps maintenant.
Et donc, alors du coup, tu as...
Ces cheminements harmoniques, parce qu'il n'y
a pas qu'un. Donc tu as créé une musique, tu as fait les arrangements pour tous les musiciens.
Ouais,
c'est ça. Et comment tu choisis les gens? C'était des gens du collectif ou de la compagnie?
Alors pas du tout.
Voilà.
Là, pour le coup, j'ai voulu... Alors il y en a deux avec qui je travaille depuis plus de 25 ans. On s'est rencontrés dans l'Occidental de Fanfare.
D'accord.
Qui est venu jouer ici il y a très longtemps, là, juste devant là.
Oui, absolument.
Et donc ceux-là, ça fait longtemps que je travaille avec eux, mais tous les autres, en fait, je les connaissais plus ou moins, ils m'ont été conseillés et tout. Et l'idée, c'était de former une nouvelle équipe avec des gens que je connaissais pas, on s'est rencontrés, donc on a passé un peu de temps ensemble, quand même, parce que créer un orchestre comme ça et faire sonner un orchestre, c'est pas si simple que ça. Donc on a... Et puis surtout, ce que je leur ai dit quand je les ai contactés, c'est que j'ai écrit de la musique, mais c'est juste une proposition de travail.
Ouais.
Et
oui,
qu'après,
ça.
Tout le boulot s'est fait ensemble, en fait.
C'est ça, ouais.
On a passé notre temps à essayer des choses pour les couleurs, pour voir comment ça sonnait, trouver les pattes sonores, pour trouver plein de choses, à échanger les voix, en fait. On dit, tiens, je joue ça, moi je vais prendre ça. Et c'est comme ça que ça marche, quoi. Parce que je suis incapable d'arriver en disant, même si j'ai des idées,
prends ça,
moi, c'est pas mon truc. Moi.
Puis c'est peut-être pas possible, d'ailleurs, à la vie à la route, je sais pas
si,
comment.
S'il y a des choses qui sont faisables, c'est pas ça, mais je veux dire, ce que j'écris, ça peut être tout bouleversé, il y a des choses qu'on a enlevées complètement, enfin, je suis pas accroché à ça, quoi, c'est pas intéressant. Si on invite des gens, et tous ceux qui sont là sont capables autant que moi d'écrire de la musique, si on invite des gens, il faut aussi tenir compte d'eux et les investir dans le...
Oui, c'est pas un contrat, c'est une invitation.
Non,
quoi.
C'est une invitation. Ouais, voilà. Et du coup, il y a une ambiance terrible dans cette formation. C'est une famille.
Ah, c'est bien, ça.
Et donc, tout le monde est là, au service du projet. Tout le monde fait attention, tout le monde. Enfin, bon, c'est
vraiment... Parce qu'il y en a qui ont dû quitter leur zone de confort, comme on dit, quoi.
Bien sûr. Mais du coup, notamment Benoît, hein, qui est le régional de l'étape, quand même. Benoît Michaud,
oui.
C'est qui joue de la vielle à roue.
D'accord.
C'est le régional de l'étape.
Il est d'où alors, dis-moi.
Il
est. Oui, il est de Nevers.
Ah ouais.
D'accord.
Ses parents, son père, son frère, son grand-père, le parent, le attendez, le frère de son père et son père tenaient une salle des ventes.
Je connais François Michaud, c'est son père, son nom,
ouais, c'est pas, ouais, ça, ouais.
qui joue de la vielle à roue.
Oui, François, d'accord. Ouais, c'est son papa.
D'accord. Ah ouais, très bien.
Voilà,
d'accord.
Il est du coin. Alors, il est parti il y a 20 ans, mais...
Oui, oui, ça ne fait rien.
C'est, voilà, c'est le régional de l'étape.
On va le réintégrer
chez lui. Oui. Voilà, et donc, c'est vrai que Benoît, c'était pas son monde au départ.
Ben oui, j'imagine.
Il hésitait, en fait. Je me souviens, à la première répétition, j'étais le voir, j'ai dit, j'aimerais bien entendre de la vielle. Il osait pas mettre...
Oui, il joue de la vielle, vas-y.
Fais du son, quoi. Voilà, donc...
Et oui, c'est ça, c'est compliqué.
Ben, oui, c'est difficile.
Ben, comme tu n'osais pas faire du rameau.
Bien sûr, mais c'est le. Mais tout le monde s'entend super. Enfin, c'est vraiment une famille. On est hyper content de se voir. On est arrivé le 13 au soir. Hier, on a répété toute la journée.
J'ai tellement bien joué ensemble.
Oui, et puis il y a des gens, il y en a un qui habite en Belgique, l'autre en Turquie, il y en a un en Bretagne, deux en Bretagne. Il y en a qui sont en Aquitaine, moi je suis à côté d'Albi, enfin bon, voilà. Ouais. Donc, c'est,
puis t'es venu à pied.
Il y en a un qui est à Grenoble, je suis venu à pied en plus.
C'est l'intérêt de ce genre de festival qui a des salles qui permettent les répétitions.
Je suis super content de venir dans ce festival. Je suis déjà venu avec Jean-Marc Padovani il y a quelques années. Et c'est vraiment. C'est un super festival.
Ouais, nous, on est content d'avoir ça.
Bien sûr.
Ça fait 38 ans qu'on l'a bon. Ça commence à bien payer. Il y a du monde dans les salles. Ça fonctionne.
Ouais. Hier soir, il y avait du monde. C'était super.
Tu disais que tu étais autodidacte. Comment t'es venu ? Il y avait de la musique dans ta famille ? Comment t'es venu à la clarinette ?
Alors, mes parents étaient mélomanes. Ils écoutaient de tout. Voilà. Et puis, j'ai commencé la musique avec un collègue. Mes parents étaient instits et profs. Un collègue de mes parents qui était musicien. Et je jouais de la flûte à bec dans une...
Dans une école, dans le groupe de l'école.
Il avait repris le boléro de Ravel avec des flûtes à bec et puis des bidons de lessive pour faire les tambours.
Mais c'est
comme ça qu'on commence.
Bah, exactement, voilà. La création.
Et en fait, je faisais tout à l'oreille. Il filait des partitions, mais je faisais tout à l'oreille. Donc j'ai beaucoup fait ça. Puis un jour, j'ai voulu me fabriquer une cornemuse. Mes parents dit bon, on va trouver une solution. Et puis bon, je sais pas, vers 16 ans, 17 ans, j'avais un camarade qui avait arrêté de jouer dans une petite harmonie fanfare du quartier, qui jouait de la clarinette. Alors je suis venu à la clarinette comme ça. Je lui ai fait voir ton truc, je vais essayer. Ouais. Je m'y suis mis comme ça en jouant, en mettant des disques, en essayant de trouver. Enfin bon, voilà. Donc le chemin est pas simple en fait. Quand on apprend tout seul, c'est ça. Et puis l'écriture aussi. Alors j'ai fait à un moment donné, comme j'ai pas fait de conservatoire rien du tout, je me suis dit il va falloir quand même essayer de se former, de comprendre un peu comment ça marche tout ça. Donc j'ai été faire une fac de musicaux à Paris, ancienne fac de Vincennes, là, Paris 8. Il y avait un petit stage de remise à niveau avant la rentrée. J'y étais. J'ai vu que c'était plus que de la remise à niveau pour moi. Mais finalement, par exemple, en cours d'écriture, c'était une fac hyper ouverte. En cours d'écriture, la prof, elle mettait un chiffrage classique, il fallait écrire un truc. Alors je faisais ce que je pouvais, puis après, elle jouait. Et le fait de jouer ce qui était marqué, j'ai dit, alors ça correspond à ce que j'entends. Je connais, je sais. Et j'ai fait comme ça.
D'accord.
Et je travaille encore beaucoup comme ça, quoi. Pour ce projet-là, j'ai changé ma façon de travailler. J'ai fait aussi que. Alors, j'ai analysé. J'aurais dû amener les parties. J'ai un recueil des pièces pour clavecin. J'ai vraiment pris des libertés sur les choses où j'ai rayé les choses que je voulais, celles que je ne voulais pas. Mais j'ai travaillé beaucoup à la sensation, quoi.
Et comment t'en es venu au jazz, du coup ?
Alors, c'est la rencontre avec Jean-Marc Padovani.
D'accord.
Parce que j'en suis venu au jazz à cause d'un disque que j'ai trouvé quand j'étais étudiant, qui était clarinette, d'un certain Louis Clavis.
Oui.
Et quand j'ai écouté ce disque-là, j'ai dit, mais c'est ça que je veux faire.
Oui, ouais, ouais. Ça ou rien d'autre.
Ouais, c'est à peu près ça, quoi. Donc, Louis, j'ai écouté tous les trucs, j'ai tout décortiqué, et puis à un moment, je m'en suis extirpé.
Oui, il faut.
Mais c'est la rencontre avec Jean-Marc. Ouais.
D'accord.
Jean-Marc qui était un pied dans le jazz, un pied dans les musiques trad, c'est un peu pour ça. Et puis moi j'habitais en Corrèze, il habitait à côté de Figeac, donc c'était pas si loin que ça. Et j'ai commencé à bosser avec lui, j'ai même été faire un week-end d'harmonie jazz pour comprendre comment ça marchait, les chiffrages et tout ça, quoi.
D'accord.
Je suis arrivé avec une caisse de vin et on a passé une journée, un week-end à faire...
Vin et jazz, ça marche.
On a passé un week-end à chercher, il m'a expliqué ça, donc c'était chouette.
D'accord.
Et grâce à lui, en fait, j'ai commencé à faire ça et puis après j'ai travaillé, voilà. Voilà, il n'y a pas de secret non plus. Hein, mais,
oui, c'est ça, ouais, oui, c'est le travail. Quoi.
Et puis on travaille tous les jours, et puis on travaille sans arrêt, et puis c'est pas fini.
Donc, non,
c'est jamais fini.
Ben, la musique, oui, c'est indispensable.
Non, mais voilà, ce que j'ai écouté hier soir en deuxième partie, j'ai dit, c'est jamais fini, en fait. J'étais un peu vert de Douglas qui se promène avec sa trompette sur le plateau, qui est une grande liberté, quoi. Et ça, c'était hyper beau, moi, j'ai trouvé ça. Ce concert-là, c'était magnifique.
J'ai eu du mal avec la pianiste, j'ai pas...
Et je trouvais que les propositions de la pianiste étaient magnifiques, moi, personnellement.
Le manque de sonorisation.
J'étais avec Martin, là, le camarade belge qui joue les guitares et mandoline du projet Sauvage. Il me disait, on n'entend pas bien la pianiste. Et à la fin, j'ai dit, mais je pense qu'elle joue énormément sur les nuances.
Oui.
Et donc, effectivement, c'était...
Oui, mais pas sonorisée, c'est un peu compliqué.
Eh bien, elle était sonorisée. Hein,
elle.
Ah ouais, elle était sonorisée.
En plus, d'accord. Oui.
Okay. Mais bon, j'ai trouvé les propositions hyper originales.
Mais bon, Dave Douglas, il a accès quand même à son... Le son de trompette non sonorisé, c'est quand même pas mal. Puis ses déplacements, tout ça, la façon
d'être, il se remettait en retrait.
C'est à chaque fois... Oui, mais là, moi j'ai un souvenir personnel de Joe Baron. Il a joué dans le théâtre ici, il a joué en duo avec Bill Frisell, pas sonorisé évidemment, et c'était extraordinaire. C'est la merveille de ce festival, de voir tout ça. Eh bien, merci Fred de nos petits studios improvisés ici. On va écouter ça ce soir grand plaisir. Au revoir, merci. À tout à l'heure, à 20h30 sur la grande scène de la maison. Et on se quitte en écoutant Chanson du duo Marc Ducré et Christophe Moniaux qui ont joué ce midi dans la petite salle de la maison. Thank you. Ça fait jazzer, l'émission de Bac FM installée au cœur du 38e Jazz Nevers Festival. Pas d'invité entre cette deuxième partie, nos plannings et les plannings des musiciens ne sont pas toujours compatibles, donc je vais me faire juste un petit rappel de la journée. À 18h30 au Théâtre Municipal, le trio du violoniste Dominique Pifarelli avec Eric Kaysing à la contrebasse et Mario Costa à la batterie. Après le maxiphone sauvage à 20h30 dans la grande salle de la maison, notre invité juste avant cet orchestre de 10 musiciens, et puis qui est suivi du duo d'Émile Parisien au saxophone soprano et de Roberto Negro au piano. Samedi 16, journée de clôture à 12h15 dans la petite salle de la maison, le duo flûte-batterie Dune, et au Café Charbon à 17h le duo sax électronique avec Sylvain Riflet et Philippe Giordani, et la grande soirée de clôture à la grande scène de la maison avec Sophie Allour, le temps virtuose en quartet, et Timba à l'Americana de Harold Lopez Musa. On se quitte avec Vivace Capriccio, extrait du programme Les Métanuits, qui sera joué en deuxième partie de soirée ce soir. Au revoir à toutes, au revoir à tous, et on se retrouve à 17h30 sur Bac FM 106.1 pour Ça fait jazzer. Thank you.